Vous écoutez
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Ça a été cette année d'instabilité.
C'est terminé, une nouvelle bronca au Vélodrome.
Nous, notre histoire est particulière parce qu'on a transformé ces jours qui ont été finalement des mois.
Globally, it sucks. It sucks.
Avec le centre de Mata. Et le but. Le but pour l'Olympique Lyonnais. Cherki.
Il a raison, pour moi, c'est normal d'admettre qu'il y a eu des erreurs.
C'est terminé au Vélodrome, écoutez les sifflets de l'enceinte marseillaise. Dans un contexte très tendu, un fumigène qui arrive sur la pelouse.
C'est un sentiment de honte. Ouais, c'est difficile de voir ce genre de match.
Il faut toujours respecter les codes de football.
Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire.
Donc du jour au lendemain, ça a été la dédringolade.
Un engrenage complet, ouais.
Attention, la curseur dans la surface. Le Vélodrome qui réclame un pénalty. Il n'y aura rien.
Guys, can I tell you something? This is bullshit.
Nico Tadze! Le piqué magnifique!
C'est une question de fierté.
Oui.
Était prêt, vous?
J'y crois!
C'est un choc, peut-être même un tournant dans cette saison. Les Olympiques s'affrontent ce soir au stade Vélodrome dans un contexte particulier. L'OM n'a plus gagné dans son stade depuis un mois et voit Monaco et Lille revenir à sa hauteur. L'OL reste sur trois matchs en Ligue 1 sans victoire et a envoyé balader son entraîneur Pierre Sage en début de semaine. Des Lyonnais désormais à 7 points du podium et à 5 points de la 4e place. La musique qui fout les jetons. Et cette question, qui a le plus à perdre, Marseille ou Lyon? Christophe Cessieux.
Tout le monde. Non, je vais évidemment tout le monde. Mais en priorité, je pense que Lyon a plus à perdre.
Ok, c'est plutôt Lyon. Fred Weiss.
Marseille.
Marseille. Sarah Pitkowski.
Bah moi, je vais reprendre Romain Gary. Je pense que Lyon, qui est en train de se perdre.
Ok, c'est plutôt Lyon aussi. Philippe Saint-André.
Marseille.
Ok, j'ai deux Marseille, j'ai deux Lyon. Avant de débattre, on va écouter Adrien Rabiot, côté Marseille. John Textor, le président de Lyon, sur l'importance évidemment de cette rencontre et des semaines plus ou moins agitées.
C'est un match très important pour le club, ça a toujours été. Il y a cette rivalité. On a vu la joie que c'était au match aller d'aller gagner. Moi, j'ai regardé ça, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Donc on sait que c'est un match important. De toute façon, on le voit, le stade sera plein. On sait que c'est un match très attendu. Bien sûr, on le joue pour nous parce qu'il est important au niveau du classement, qu'il faut se relancer, mais évidemment pour les supporters qui attendent ce match aussi avec impatience.
J'ai rencontré Paolo il y a 5 ans déjà. J'aime son style, il a de l'ambition. J'ai beaucoup de respect pour ce que nous a amené Pierre, mais depuis plusieurs semaines, nous sommes en mode survie. Il faut désormais regarder devant nous pour augmenter nos chances d'atteindre nos objectifs qui sont élevés.
Nous sommes en mode survie, c'est évidemment l'une des informations actualité de cette semaine avec Fonseca qui a remplacé Pierre Sage. Qui a le plus à perdre, Marseille ou Lyon? N'hésitez pas, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Venez participer avec nous à ce débat. C'est le match ce soir à 20h45. Pourquoi Lyon, Christophe?
Alors, évidemment, difficile de dégager l'un ou l'autre des Olympiques, tant les deux clubs ont un besoin urgent de résultats, mais puisque c'est le jeu, puisqu'il faut faire un choix, eh bien je dirais l'Olympique Lyonnais, un club qui a pris une belle série à l'automne, où on l'avait vu recoller aux places européennes et s'immiscer un peu dans le jeu des grands, eh bien est retombé dans ses travers et son irrégularité. Ça fait quand même 7 matchs que les Lyonnais n'ont plus gagné. Aujourd'hui, ils sont dans l'urgence et pas dans les clous de ce qui est considéré comme l'objectif numéro 1 de la saison, c'est-à-dire terminer dans les places d'une Ligue des champions, qualificatifs pour la Ligue des champions. On le sait, cette qualif pour la C1, elle est de plus en plus capitale pour tous les clubs, et notamment pour l'OL, qui est empêtré dans des problèmes financiers et qui a besoin de la manne de la Ligue des champions pour en sortir. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils n'atteignent pas la Ligue des champions, et du coup, bah, ça fait baisser les finances. On a bien compris ces jours-ci en voyant les sommes folles récoltées par les clubs français qualifiés pour les 16e et 8e de finale de la compétition européenne. Rennes, c'est qu'aujourd'hui, le monde se divise en deux. Il y a ceux qui se qualifient pour la C1, qui obtiennent de vrais droits télé, et il y a les autres qui doivent se contenter des miettes, des droits du championnat domestique. Lyon, depuis quelques années, eh bien, doit se contenter des miettes. Et ça n'est pas du tout dans le statut de ce club qui se veut un grand du championnat de France. Et il ne faut pas que plusieurs saisons d'affilée comme ça se déroulent sans qu'ils n'obtiennent le moindre subside de la Ligue des champions, faute quoi faute de quoi ils vont tomber dans l'autre clan. Et quand on est une ville comme Lyon, deuxième ou troisième ville de France en termes d'importance, qu'on a le passé d'un club comme l'Olympique Lyonnais, eh bien, on peut pas se permettre de faire ça. En plus, ils ont un nouvel entraîneur. Bon, ils sont vraiment dans l'obligation de ramener quelque chose de Marseille, faute de quoi, eh bien, ils vont peut-être finir à la trapinette.
Ok, l'importance de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est plus le cas aujourd'hui au niveau du classement pour Marseille.
Oui, ils sont moins bien classés que Marseille. Ils sont septième seulement. Donc, tu vois, c'est pas.
Ok, un peu plus de doutes sur Lyon. Donc, pourquoi Marseille, Fred Weiss?
Moi, je trouve très intéressant ce que vient de dire Christophe, vraiment.
Mais tu y crois pas.
Mais j'y crois pas. D'accord. J'y crois pas du tout. Alors, j'y crois pas du tout parce qu'il y a un nouveau coach.
Tu as bien travaillé tes arguments. On va voir si tu as bien travaillé tes arguments.
En fait, je pense avoir travaillé mes arguments, mais ce qu'il dit est vrai. C'est vrai que d'un côté, on a besoin de cette manne financière du côté de Lyon. Sauf que, faut se rappeler qu'il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Il a deux entraînements dans les pattes avec son équipe. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur une période où on sait comment ça se passe quand un nouveau coach arrive. Il y a trois possibilités. Le statu quo. C'est-à-dire que rien ne change, ça continue de la même façon. Soit ça progresse de façon tout de suite, inespéré, ça, c'est incroyable, il apporte ce jus, ce côté disjoncteur qui est replacé et ça repart directement. Soit il y a un temps d'adaptation, ça retravaille un petit peu. Donc on sait pas ce qui va se passer. Donc on sait exactement, par contre, que le coach vient juste d'arriver et que du côté de Marseille, on sait que c'est une nouvelle équipe, qu'on peut les prendre maintenant parce qu'il a pas eu le temps de travailler, il a pas eu le temps de changer les systèmes, il a pas eu le temps de mettre en place sa philosophie de jeu. Donc, du côté de Marseille, quand on vient d'enchaîner quelques matchs un peu compliqués aussi du côté de Marseille, hein, on est éliminé de la coupe, on n'a pas gagné depuis deux matchs.
Tu trouves des excuses à Lyon en disant qu'effectivement...
Je trouve pas d'excuses, c'est juste une réalité. En fait, ça serait méconnaître le sport que de dire que quand un nouveau coach arrive, il change tout directement. C'est pas vrai. Ça peut arriver, mais c'est pas une excuse. Non, c'est juste une réalité.
Si t'es en train de dire, et c'est ce que veut dire Sarah, c'est que si Lyon perd ce soir, c'est normal.
Mais évidemment, parce qu'on est déjà sur le processus de on n'est pas bien, on a essayé de changer les choses. Donc, quand on a commencé un processus, le processus, on ne sait pas comment. Tu peux pas imputer à un nouveau coach
une nouvelle philosophie. J'impute à quelqu'un le fait que celui qui a le plus à perdre aujourd'hui, c'est l'OL. Je l'impute à une personne.
Mais non, parce que là, ils sont déjà en phase de reconstruction. Ils ont déjà un coach. Ils sont en train de changer les choses. Les choses mettent un certain temps pour changer. C'est une réalité.
Mais basculer en milieu de saison, alors le mois de janvier, il n'est pas catastrophique.
Il n'est pas catastrophique.
Ils n'ont pas gagné de match, mais ils ont ramené des nuls. Ils sont encore en C3. Aujourd'hui, je ne vois pas, à part déstabiliser un vestiaire qui était derrière Pierre Sage, qui a quand même fait un travail, c'est même pas remarquable ce qu'il a réussi à faire.
C'est un miracle.
C'est un miracle, c'est juste spectaculaire comme il a pu sauver Lyon l'année dernière d'une potentielle relégation en Ligue 2. Et aujourd'hui, fragiliser ton vestiaire. Et alors, attends, déjà que Textor, c'est pas le meilleur ami des supporters de l'OL. Le prochain match à la maison. Mais si il fait pas un miracle, notre Fonseca, mais ça va démobiliser tout le monde.
Quand il y a un nouveau coach, ça se passe pas comme ça.
Parce que
les supporters vont prendre
le
parti.
Le
contexte, je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a un contexte que tu vas directement accuser et taper sur le nouveau coach qui vient d'arriver.
En fait, quand est-ce que tu vires ton entraîneur en pleine saison? C'est quand finalement il a plus la confiance du vestiaire et donc en fait chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu gagnes plus, c'est pas qu'ils gagnent pas, ils font juste des matchs nuls.
Ils ont pris une décision. Après, encore une fois, il faut l'assumer, je suis d'accord.
Je vois pas comment il peut servir, puisque le vestiaire, donc ceux qui sont sur le terrain, ils ont confiance en Pierre Sage. Pour preuve, ils ont tous, Ryan Cherki en première ligne, ils ont tous défendu le boulot incroyable de Pierre Sage.
Mais on est tous d'accord,
mais avec ça. Mais oui, mais comment, en quelques temps, tu peux reconstruire une confiance, alors qu'il avait pas perdu la confiance du coach précédent?
C'est un club professionnel, un nouveau coach qui arrive, coach expérimenté en plus, c'est une volonté de la direction, c'est comme ça.
Je crois que Philippe Saint-André veut entrer dans le débat.
Oui, déjà, moi, Marseille, pourquoi? Parce que Marseille, ils ont perdu beaucoup trop de points à domicile. Ils sont encore seconds, mais ils ont perdu beaucoup de points. Il faut à tout prix qu'ils gagnent. Et puis, sincèrement, par rapport à la décision de John Textor, j'ai envie qu'ils en prennent quatre. Les Lyonnais. Mais parce que ce qu'il a fait, c'est une honte. On s'en souvient, l'année dernière, en début de saison, tous les experts disaient Lyon ne va pas se sauver. Ils avaient un nombre de points incroyable. Et il a remis l'équipe d'aplomb, les joueurs sont contents de lui, les supporters sont contents de lui. Déjà, c'est compliqué le rôle d'entraîneur. Je peux vous assurer que c'est un job compliqué. Quand tout le monde est heureux, ils sont septièmes, ils le virent. Donc pour moi, la pression elle est sur Marseille. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de gagner. Ils ont besoin de gagner
à
domicile.
Et parce que tu ne serais pas surpris que Lyon en prenne une.
Et je ne serais pas surpris que Lyon en prenne et en prenne.
Et tu le souhaites même.
Et je le souhaite surtout par la décision de ce président. C'est une décision qui est invraisemblable. Il comprend pas le foot français.
J'ai l'impression que ça vous fait parler, donc on va rester sur le cas Pierre Sage, parce que je l'ai pas beaucoup entendu cette semaine depuis son éviction.
Parce qu'il a la classe. Non mais
c'est pas ça. J'ai pas beaucoup entendu cette analyse cette semaine, et je vous en fais part. Mais j'ai l'impression que ça se. On l'a connu déjà dans le championnat de France, ce coach, même si il obtient des résultats, il passe à la trapinette. C'est arrivé avec Antoine Camboire contre les Qataris.
C'est exactement l'exemple que je voulais mettre en avant.
Quand
les Qataris sont arrivés, ils ont laissé Antoine Camboire qui était là en place. Mmh. À la trêve, il est leader de la Ligue 1. Il se fait virer parce que là, il y a l'occasion de faire Carlo Ancelotti. On en avait un peu parlé à l'époque en disant, c'est vrai, c'est injuste pour Antoine Camboire. Mais bon, quand t'as l'occasion de faire Carlo Ancelotti, alors je compare pas Carlo Ancelotti avec Fonseca, mais est-ce qu'on peut comprendre aussi cette décision de John Textor à un moment donné?
C'est des choix, en fait, c'est des choix à vraiment court terme. Oui, parce que Paolo Fonseca vient de se faire dégager du Milan AC et qu'il est sur le marché. Et donc John Textor dit, il faut que je le prenne tout de suite parce que au cas où il signerait dans un autre club, mon choix numéro un. Mais dans ces cas-là, tu peux le payer pour les 6 mois et dire, écoute, je te prends à la fin de la saison. Tu le bloques pendant 6 mois. Mais
ça c'est un peu compliqué quand même, ça.
C'est un peu compliqué
quand tu vires un entraîneur, ça va te coûter
de l'argent quoi qu'il arrive.
Mais par contre, je suis d'accord avec vous. Le fait de virer quelqu'un qui fonctionne, c'est incroyable, c'est complètement ridicule. Et c'est là que je rejoins Philippe. Quand tu dis que la méconnaissance de la Ligue 1 et du championnat français, à un moment, c'est pas parce qu'il a pas de nom qu'il c'est pas un bon entraîneur. On ne signe pas un entraîneur sur son nom, sur ses qualités et ce qu'il a prouvé.
Et quand même, tu es un investisseur quand propriétaire étranger, t'as envie d'un nom qui fasse qui vitrine, ça vrombisse c'est ce qui s'est passé avec le PSG et Camboire, aussi bon entraîneur soit-il, c'était pas pour la vitrine internationale, valait mieux avoir Carlos Ancelotti sur le banc qu'Antoine Camboire.
Textor, il y a un an, il était content de récupérer Pierre Sage.
Ouais, c'est ça. Il était très content.
Pour remettre le club.
La reconnaissance du ventre, à un moment, c'est important.
Peut-être qu'il était content, sauf que quand il est arrivé, c'était Pierre Sage qui était en place. Il n'a pas forcément voulu.
Non, c'était pas Pierre Sage qui était en place.
Non, c'était pas Pierre Sage, c'était Laurent Blanc qui était en place, mais il y a eu Pierre Sage, il a eu des bons résultats tout de suite. Il s'est dit, OK, on va rester comme ça.
Il faut d'abord
trouver un autre entraîneur. Mais attends, t'en as connu des présidents
bien sûr. Non, mais attends.
Ah, mais à un moment donné, est-ce que ça peut pas se comprendre? C'est lui qui paye, c'est son club, il fait un peu ce qu'il veut. S'il y croit pas,
il aurait pu être élégant en disant, Pierre, Sage, tu finis la saison, j'ai l'opportunité de prendre un coach.
Tu finis la saison, on rate la Ligue des Champions, on a 50 millions en moins, et je vous mets sans une thune.
Est-ce que t'es sûr qu'ils vont rater la Ligue des Champions?
Ça en prenait la direction.
S'il n'y croit pas, si en tant que président, après on dit oui, il connaît pas assez le foot, s'il n'y croit pas, lui, intimement persuadé qu'avec Pierre Sage, il ira pas en Ligue des Champions.
Il connaît quoi au
et
foot,
que c'est final.
Textor, à part barrer une entreprise.
C'est le seul argument qu'on nous sort. Avec le Brésil, il a été champion. Je veux dire, il a quand même quelques.
Après, un président, il doit avoir une vision aussi. Effectivement, s'il n'y croit pas, il doit changer. Il vaut mieux changer maintenant parce qu'après, sinon, on retombe dans ce que vient de dire Christophe. C'est qu'on retombe dans le fait que, ils ont pas la Ligue des Champions et tout le monde va l'accuser de pas avoir de prise de décision au bon moment aussi.
Ce débat dans une dizaine de journées.
Mais il aurait pas eu intérêt de prendre 2 ou 3 bons joueurs? Aussi.
Il peut pas recruter.
Par contre, il a des sous pour virer un entraîneur et pour en acheter un autre.
C'est un entraîneur qui lui coûtait pas cher.
Oui, mais celui qui va arriver, il vient pas gratos, quand même. Okay.
Le problème, c'est que c'est plus facile de virer un entraîneur que de virer un vestiaire entier.
On poursuit la discussion sur Pierre Sage, sur l'Olympique Lyonnais, sur Marseille. Ce soir, n'hésitez pas, 32-16.
Donc tout le monde est d'accord que l'OL est le plus en...
Non, il y en a deux qui disent Marseille.
Alors
t'écoutes plus.
J'ai cru comprendre que vous étiez passé par... que vous aviez laissé tomber Marseille, parce qu'évidemment, la situation de Lyon est beaucoup plus... plus dramatique que celle de l'OM. Mais ça, vous l'avez pas encore compris. On va vous le faire comprendre.
Il faut amener des crêpes à Christophe.
Oui, il est un peu nerveux. Hein.
Il a besoin.
Ben non, mais il essaye de vous faire changer d'avis, c'est tout. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre.
Les Grandes Gueules du Sport.
Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Jean-Christophe Drouet.
Et voilà, la fameuse crêpe au sucre, évidemment, ce dimanche de la Chandeleur. 9h27, vous écoutez les Grandes Gueules du Sport. Merci de votre fidélité dans une dizaine de minutes. Le zapping des GG, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. J'ai l'UCI qui bannit le monoxyde de carbone. Enfin, on en a souvent parlé dans cette émission. J'ai du Renault Lavillény. J'ai l'Irlande qui bat l'Angleterre. Ça va intéresser nos amis rugbyman. Ou encore de la Coupe Davis, ça c'est pour Sarah Pitkovski. Donc restez bien avec nous, on s'en fout pas. Dans 10 minutes, oui mon cher Christophe.
Il en est où justement Kylian au niveau des crêpes là.
Il me dit ça arrive.
C'est vrai ?
Voilà. Alors la dernière fois qu'il m'a dit ça arrive, j'ai attendu une semaine. Mais peut-être que ça va arriver. En tout cas, j'espère. On le motive évidemment, notre producteur, pour trouver des crêpes pour Christophe Cessieux.
Tu lui fileras la moitié de ta prime par exemple.
Oui. Ah bah il va se marrer parce que c'est pas énorme. Là il me dit si j'ai la moitié de la prime, je le commande tout de suite. Mais la moitié de ta prime, mon cher Christophe, et vu le nombre d'années que tu as passé à RMC, elle doit être conséquente, évidemment. On reste un petit peu sur notre débat. Marseille-Lyon ce soir, 20e journée de Ligue 1, c'est à 20h45, la grande soirée à partir de 20h30 autour de Jean-Louis Tour, Jeannot Séguier en direct du Stade Vélodrome. Qui a le plus à perdre, Marseille ou Lyon? Dans quelques instants, les auditeurs vont arriver pour débattre avec nous. Tu n'as pas forcément convaincu, tu l'as entendu, Fred Weiss, t'as pas convaincu Christophe Cessieux sur ton argument marseillais. Est-ce que si Marseille perd ce soir, ça va être compliqué pour eux, sachant qu'à domicile, il y a des difficultés.
Et tu penses qu'ils vont virer Deserbi ou non?
Non, ça va être compliqué, bien évidemment, pour Marseille. Alors, effectivement, si on prend les situations en général, on peut dire que Lyon a plus besoin de victoire que Marseille. Oui, sauf que dans la situation actuelle, Marseille qui ne joue pas de Coupe d'Europe, Marseille qui vient d'enchaîner les matchs un peu difficile. Marseille, qui a quand même des difficultés à gagner à la maison, et qui joue contre une équipe qui vient de tout changer, de révolutionner tout, si tu gagnes pas ce match-là, à la maison, devant tes supporters, dans ce derby un petit peu, enfin en tous les cas, dans ce match un peu à enjeu, et t'es pas très bien. En fait, c'est sur ce point-là que je pense que Marseille a plus à perdre. Effectivement, en termes de victoire, Lyon en a plus besoin. Bien évidemment, si on étend le débat sur le restant de la saison, je dirais Lyon. Mais si on prend juste ce match, encore une fois, Marseille à la maison, franchement, ça rassure pas. À chaque fois, là, cette victoire pourrait être une victoire référence à la maison contre un club qui est un rival et contre un club qui, encore une fois, vient de changer de coach. Donc, il y a une nouvelle philosophie qui doit mettre des choses en place, etc. Excuse serait difficile à trouver du côté de Marseille.
Et là, on ne pourra pas toujours se cacher derrière l'arbitre. Hein.
Exactement.
Ça a beaucoup fait parler côté marseillais ces derniers temps. Amine nous appelle au 32-16, supporter de Lyon. Salut Amine.
Oui, salut les gars.
Bon, avec ton nouveau coach, là, qui a le plus à perdre selon toi?
Ah, pour moi, c'est Deserbi qui a le plus à perdre, ça c'est sûr. Par contre, moi, je vais juste revenir sur quelque chose. Fonseca, il faut savoir que s'il gagne ce soir déjà, vous imaginez le
crédit qu'il va obtenir, oui, ça c'est sûr.
Le crédit qu'il va obtenir. Parce que derrière, il y a beaucoup de gens qui critiquent, voilà, pourquoi Pierre Sage, il a été mis dehors et tout, et derrière lui, il arrive, il tape Marseille, ça change tout. Par contre, moi, je suis d'accord avec l'éviction de Pierre Sage. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui vont me critiquer, mais aujourd'hui, je suis d'accord. Pourquoi? Le dernier match, la dernière victoire, c'est contre Francfort, on a gagné 3-2. Derrière, c'est que des défaites ou des matchs nuls. La seule victoire, c'est contre un club de N3 ou N2 en Coupe de France. C'est une victoire contre Montpellier 1-0. Le reste, c'est que des matchs nuls, que des défaites. On arrive, on a plein d'occasions. S'il y a troisième, on rate ses occasions à chaque fois. On n'avance pas tout simplement parce que derrière, devant, ça patine. C'est tout. C'est le seul truc. Aujourd'hui, on est septième. On rate encore cette occasion. Encore aujourd'hui, là, demain, si on gagne, ce soir, on se retrouve à seulement 4 points de l'OM.
Peut-être, mais tu disais ça de Pierre Sage il y a un mois ou pas?
Mais c'est ça, justement. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a un mois, non, parce qu'il y a un mois, les résultats, ils suivaient. L'année dernière, il a fait monter Lyon. Il a réussi à faire maintenir Lyon parce que les résultats, ils suivaient. Il faut savoir que l'année dernière, combien de buts on a marqué à la dernière minute? Oui, mais combien de fois on perdait 3-1, on a gagné 4-3 contre Brest. On perdait 3-1 contre Lille, je crois, on gagne 4-3 aussi. Oui, on nous a sauvés, il y a eu le discours, on a réussi à finir européen, c'est super, et merci à Persage pour ça, il nous a fait du super travail. Cette année, ça a bien commencé, derrière, ça a mal fini, il y a eu des matchs nuls, il y a eu des défaites. Je pense que la défaite de trop, ça a été la défaite contre Bourgoin-Jallieu pour Textor. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas normal. Je prends l'exemple, par exemple, Manchester City. Aujourd'hui, Guardiola, c'est compliqué pour lui à Manchester City. Aujourd'hui, il a énormément de crédit parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, tout ça et tout. Aujourd'hui, nous, on a gagné quoi avec Pierre Sage ? Quel trophée on a gagné avec Pierre Sage pour dire, bah voilà, on a gagné tel trophée, on a le droit de le garder.
Je sens que ça fait réagir. Il fulmine, là, Philippe Saint-André.
Non, mais tu as beaucoup de mémoire, Canon. Parce que pendant 4 semaines, il a eu moins de résultats, tu le brûles. Alors que il a repris le club, vous étiez dernier, vous aviez pas un point, il a fait une demi-saison, la saison dernière, assez exceptionnelle. Après, où je suis d'accord, c'est que la défaite à Bourgoin-Jallieu, normalement, Bourgoin-Jallieu, à l'époque, ont gagné au rugby contre Lyon, mais au foot, c'était jamais arrivé. Et donc, je pense que cette défaite a fait énormément de mal au club et surtout à l'entreprise. Entraîneur qui a perdu, je pense, beaucoup du côté de son président.
Mais tu sais que ça va vite, Philippe, tu connais bien le peine d'entraîneur. Donc, sport, ça va extrêmement vite. En un mois, on passe d'une idole absolue à quelqu'un qui faut virer.
Mais c'est pas Jordan.
En un mois, il a perdu des matchs. Il y a eu beaucoup de matchs nuls aussi.
Non mais on pensait que le sentiment était minoritaire. Alors on n'a pas fait de sondage, mais Amine, vous l'avez entendu sur Pierre Sage. Il y a Quentin via le Direct Studio qui nous dit Sage nous a sauvés, mais pour passer un palier, il nous faut un entraîneur qui a coaché à l'étranger.
Mais encore une fois, il faut qu'un président ait une vision, et si la vision Textor c'est celle-là, on peut se tromper. Alors effectivement, nous, ça nous choque parce que Pierre Sage a sauvé cette équipe et on se rappelle ce qu'il a fait. Mais effectivement, que peut-être pour progresser pour cette équipe, ben il faut prendre un coach aussi référencé que Fonseca, peut-être.
Sarah.
Je suis peut-être en train de changer d'avis.
Non.
Pas si.
Ça tombe bien, t'es à la place de Denis Charvet, David.
Mais moi, j'attends les arguments avant d'être à l'eau tiède, tu vois.
Bravo.
Non, mais je suis peut-être, effectivement, et c'est l'auditeur, finalement, si lui, supporter de Lyon, moi, je les regarde pas, les matchs de Lyon, si effectivement, ces matchs nuls, qui se sont joués au mois de janvier, c'était des matchs où à un moment, il y avait un souci pour marquer et que ça devait passer. Ça peut peut-être s'entendre. Ça peut peut-être s'entendre, effectivement, que Pierre Sage, aujourd'hui, pour passer un cap.
Et donc, si ça s'entend, on est d'accord que forcément, l'OL a moins à perdre que Marseille. Parce qu'ils sont sur cette phase de reconstruction où ils travaillent avec un nouveau coach qui vient juste d'arriver.
C'est ce que je disais tout à l'heure, elle est trouvée.
Elle est plus que valable.
Ok, Amine est toujours avec nous, supporter de Lyon. Tu attends quoi de ton équipe, là, ce soir?
Alors, ce soir, j'attends une équipe revancharde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, montrer que c'est pas la faute des joueurs. C'est ça en fait le message que je veux qu'ils envoient. C'est que c'est pas la faute des joueurs que le club est arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, si Lyon fait un gros match, ça montrera encore une fois que ça montrera à Textor que voilà, c'était le coach qu'il fallait changer. Ok. Maintenant, s'ils arrivent.
Mais Amine, est-ce que tu parles du fond du match ou tu parles du résultat? Parce que.
D'abord le résultat. Après le fond, j'en parlerai après. Mais d'abord le résultat, juste derrière, sortir avec un résultat positif et dire, on a gagné le match. Maintenant, sur le fond, aujourd'hui, ce que je demande, c'est de la conservation de balles, c'est de la maîtrise technique. Quand on voit le match contre Nantes, on gagne, on fait 1-1. On marque un but, on met 1-0 et derrière, on est derrière, on regarde le match passer et derrière, on prend un but à la fin. Contre Toulouse, on fait 0-0, il se passe rien du tout. En fait, ce que je demande, c'est que je veux qu'il se passe des choses. Alors, on disait que oui, voilà, Paulo Fonseca, il est là, c'est un homme de spectacle. Alors, j'attends de voir, mais je veux vraiment qu'il se passe des choses.
Oui, tu es d'accord avec moi qu'il vient juste d'arriver, donc c'est difficile pour lui d'avoir déjà mis une philosophie de jeu, d'avoir déjà instauré des choses, alors qu'il a 2 entraînements dans les pattes au max.
Déjà, quand je vois la compo, je crois que j'ai vu sur RMC hier, j'ai vu qu'il mettait Tolisso en 10.
Ouais,
Tolisso
en 10,
c'était son poste avant.
Ah, en 10, on peut trancher en 8 plutôt, si vraiment on veut parler technique. Il a jamais été vraiment milieu offensif, Tolisso.
En fait, il a quand même, je veux dire ça se rapproche plus du poste qu'il avait avant que le poste que Pierre Sage lui mettait maintenant.
Peut-être.
Et donc, la casette en pointe, j'ai vu donc Cherki à droite, Kouama à gauche. Et là, il veut mettre Thiago Almada donc titulaire.
Oui, mais moi, c'est une première, encore une fois, c'est une première, il vient d'arriver, il peut pas tout révolutionner. En fait, c'est une équipe qui est à peu près en place quand même, même si c'est un peu plus dur en ce moment.
Quand je vois le match contre Ludogorets, quand je vois Lacazette et Nico Tzadze sur le terrain en même temps, Vous vous rendez compte, c'est deux numéros 9 qui ont le même poste, qui ont les mêmes, ils sont même pas complémentaires et tout, ils sont les deux en même temps sur le terrain. C'est inconcevable.
Ouais, c'est après, fou comme dire... vous avez tendance quand même, Amine, à brûler quand même ce qui a marché avec Lyon. Philippe n'est toujours pas d'accord. D'ailleurs, Philippe, t'as déjà connu des présidents aussi dingos que John Textor ou pas?
Il en a connu un paquet de.
Ouais, des noms.
Je ne pourrais pas donner.
Sur John Textor,
moi, ce qui me dérange, c'est que son job, ça serait de régler le problème qu'il a financier, que le club puisse recruter des joueurs, et apparemment ils ont des problèmes devant, et donc de recruter des bons joueurs pour marquer des buts. Ça, c'est le job d'un président. On a vu la sortie qu'il a fait ici. Alors il a critiqué tout le monde, etc. Mais quand il est passé en face de la DNACG, il a dit tout s'est bien passé. Et une semaine après, le club était en grande difficulté.
Ils font tous pareil, hein, par contre, Philippe. Dès qu'ils passent devant ces commissions-là, ils disent toujours tout va très très bien. Et au final, ils reçoivent un petit coup de bâton quand même.
Ouais, mais ça, moi, je voudrais savoir si c'était possible de faire perdre les deux équipes ce soir.
Alors, ça va être difficile. Bah,
je vous explique.
Ah oui, il y a Nice.
Marseille a 4 points d'avance sur Nice et Nice a 3 points d'avance sur Lyon. Si les deux perdent et que nous, on gagne à Toulouse, on s'approche de la
Ligue des Champions. Pareil, on va couper la poire en deux. Je te propose un match nul. Ça ira.
Ouais.
Non, mais juste rapidement, un président interventionniste, ça t'en a connu aussi, qui venait s'occuper de tes histoires de terrain.
Oui, bien sûr, ça arrive. Hein.
Ouais, comment tu fais pour gérer?
Ce qui est important, c'est de mettre les règles du jeu avant. Par exemple, avec Mourad Boudjella, qui était quelqu'un qui était atypique, et lui, il s'occupait du recrutement. Quand je suis venu à Toulon, il avait le droit de prendre deux joueurs, les deux joueurs du président, et moi, je m'occupais du reste du recrutement.
Mais est-ce que tu étais obligé de les faire jouer? C'est hyper
intéressant. Il avait pris Wilkinson, alors, donc c'était pas mal quand même.
Au début, il a pris Wilkinson. Après, quelquefois, il y a eu des erreurs aussi qui sont pas restées longtemps. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de salary cap, parce que maintenant, tu peux plus le faire. Mais donc, il y avait le cadeau du président. Il avait le droit de prendre deux joueurs par saison. Mais ce qui est important, voilà, c'est que quand tu fonctionnes avec des président comme ça, il faut que les règles du jeu soient bien mises en place au départ.
Oui, mais voilà. J'ai envie de dire, t'es une légende du 15 de France, donc c'est vrai en plus. Donc c'est plus facile d'avoir de l'autorité sur ton président, un Pierre Sage que l'on adore.
C'est très difficile pour lui.
Avoir de l'autorité sur Boudjella, c'est pas évident non plus. Hein.
Ok, le joueur du président. J'aime bien ce concept. Ça existe encore, ça, d'après toi, en top 14?
C'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec le salary cap qui est difficile, avec les GIF où il faut 16 joueurs issus de nos filières de formation sur feuille de match, maintenant c'est un recrutement qui doit être fait et bien fait, alors qu'avant il n'y avait pas de salary cap, donc si tu avais un ou deux joueurs étrangers supplémentaires, c'était pas un problème.
Ok, on remercie Yami d'avoir composé le 32-16, d'avoir été avec nous. Marseille-Lyon, c'est donc ce soir 20h45, ce sera à suivre en direct en intégralité sur RMC. Une grande journée s'annonce évidemment pour ces deux équipes.